Voilà, un enfant qui babille à la une de la science, donc, Héloïse Rambert. L'acquisition du langage, des mots, et tout un processus qu'on va découvrir avec vous et votre invité.
Oui, Mathieu, et tous les enfants ne sont pas logés à la même enseigne. C'est ce que nous montre un article qui vient de paraître dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire. Les chercheurs ont voulu savoir si en France, les inégalités sociales marquent les individus dès le plus jeune âge. Et la réponse est oui. Ils ont travaillé sur une cohorte de 18 000 enfants et ont noté qu'à l'âge de 2 ans déjà, il existe des différences notables dans le développement du langage entre les enfants issus des milieux les moins favorisés et les plus favorisés. Mmh. Pour en parler, nous sommes avec Lydia Panicot qui a co-signé l'article. Bonjour.
Bonjour.
Alors, dites-nous, quels sont les critères que vous avez retenus dans vos travaux pour vraiment déterminer le niveau socio-économique des ménages ?
Alors, ceci se peut se mesurer effectivement avec des indicateurs très différents. Nous avons retenu ici l'éducation des parents, donc le niveau de diplôme le plus élevé détenu par les parents, et par les revenus du ménage, donc c'est-à-dire tout ce que les parents perçoivent, leur salaire, leurs prestations sociales, etc.
Et parallèlement, donc de l'autre côté de l'étude, vous avez évalué ce que vous appelez le volume langagier des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire et comment vous avez procédé pour cela ?
Dans l'étude ELF, nous avons à disposition une échelle qui s'appelle la MacArthur-Bates. C'est une échelle qui est utilisée depuis très très longtemps dans différents pays et qui a été validée en France depuis déjà une dizaine d'années, même plus. Et donc c'est une échelle qui propose aux parents une liste de 100 mots. Mots du quotidien de l'enfant comme bateau, chat, etc. Et le parent doit dire si l'enfant peut prononcer ce nom de manière spontanée, même s'il fait des petites fautes, si la prononciation n'est pas parfaite. Et nous avons trouvé qu'en moyenne, les enfants elfes aux 2 ans pouvaient dire 74 mots parmi les 100 proposés.
Sur les 100.
Ceux qui sont les enfants qui étaient issus des familles les plus favorisées en connaissaient en moyenne 80. Tandis que ceux issus des familles les plus défavorisées en connaissaient en moyen 70.
C'est quelque chose d'important, c'est notable comme différence ?
Oui, c'est, pour ceux qui comprennent un peu de statistiques, c'est respectivement un demi-écart type.
Ça veut dire quoi ?
Donc ça veut dire que c'est des écarts qui sont comparables à des écarts qu'on retrouve déjà, qu'on retrouve au collège par exemple, où les différences sont à peu près d'un écart type. Dans des écarts statistiquement significatifs et déjà importants en taille.
Et alors, ces différences importantes, est-ce qu'on a des éléments d'explication ? Comment ça s'explique ? Est-ce que vous avez des pistes ?
Oui, tout à fait. Donc l'étude, je veux préciser d'abord que c'est une étude descriptive et donc il propose des pistes, comme vous dites, mais pas encore des résultats certes. Nous montrons qu'une petite partie de ces écarts sont simplement expliqués par des caractéristiques sociodémographiques différentes dans ces groupes, telles que la taille de la fratrie, la santé de l'enfant à sa naissance, le statut migratoire des parents, l'âge des parents. Donc une petite partie est juste due à la composition différente de ces groupes. Une deuxième partie, on a fait un petit focus dans cet article sur les modes de garde.
Et vous montrez que quand les enfants vont à la crèche à partir d'un an, ça les tire vers le haut, si on peut dire ?
Tout à fait. Il semble qu'une partie des écarts peuvent s'associer à le mode d'accueil que l'enfant a été proposé à un an.
Là, nous, on aimerait bien évidemment avoir votre réaction sur cette étude. Comment vous interprétez-vous ces résultats ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
On sait qu'il y a des déterminismes sociaux qui sont importants. Ce qui m'intéresse aussi dans cette étude, c'est que d'autres études montrent que ça va avoir un impact par la suite, et notamment sur la scolarisation et l'apprentissage de la lecture est assez largement déterminé par le vocabulaire de l'enfant. Donc on est vraiment dans une causalité qu'il faut essayer de briser. On sait aussi que ça a un impact sur le cerveau des enfants. Ça, il y a plusieurs études récentes qui ont montré que la myélinisation, c'est-à-dire l'entourage des axones par des gaines d'isolant qui facilitent la transmission de l'influx nerveux, donc en quelque sorte l'anatomie fonctionnelle du cerveau est modifiée en fonction de la taille du vocabulaire de l'enfant et du fait qu'on lui lise des histoires le soir, par exemple.
Surtout que là, on est dans un âge absolument essentiel du développement de l'enfant.
Hein. De deux ans, absolument. Ouais. C'est un âge d'extrême plasticité. C'est un âge où il y a un pic de production de synapses. J'en parle dans mon autre livre, qui est le livre Apprendre. Il y a un pic de plasticité. Puis ensuite, on va sélectionner les axones et les synapses qui sont pertinents. Et donc, il est probable qu'à cet âge, on va déjà modifier profondément l'enfant et le cerveau de l'enfant lorsqu'on lui enrichit son environnement en vocabulaire. Et j'ai parlé de cette étude en disant, il faut parler, il faut lire à ses enfants. On sait que il y a quand même des relations causales importantes, même s'il y a beaucoup de facteurs que vous avez listés. L'un d'entre eux, c'est la quantité de langage que reçoivent les enfants. Et il y a trop de familles encore qui ne le savent pas. Ça peut paraître évident.
Le volume langagier.
Mais il faut parler à ses enfants. Il faut parler avec un vocabulaire riche, sans sous-estimer les extraordinaires capacités de compréhension qu'ils ont déjà à cet âge-là.
Et alors, passé l'âge de 2 ans, les enfants vont aller à l'école. Est-ce qu'on peut espérer que l'école va gommer ces différences ou au contraire, elle risque de les creuser, Lydia Panico?
Oui, donc notre étude ne peut pas encore répondre à ceci. Les enfants que nous suivons sont nés en 2011, donc commencent leur scolarité. Mais bien sûr, nous permettrons de donner une réponse très précise à ce type de questions. Néanmoins, il y a des études qui peuvent donner des réponses à ça, notamment le rapport de l'UNICEF qui vient de sortir tout récemment sur les inégalités scolaires chez les enfants dans les pays plus riches, montre que selon le pays qui est étudié, il y a des systèmes scolaires qui arrivent à gommer ces écarts initiaux et d'autres qui n'arrivent pas, et même les creusent.
Et la France n'est pas très bien placée dans ce rapport.
La France n'est pas très bien placée ici, tout à fait.
Il y a aussi une question au président du Conseil scientifique de l'éducation nationale, Stanislas Dehaene, pareil, sur l'apport de l'école, évidemment.
Bien sûr, ça dépend de ce qui est fait dans les classes, et donc on se penche actuellement avec le Conseil sur ce qui est fait. On s'est plutôt penché jusqu'à présent sur le CP, l'introduction de la lecture. Il y aura bientôt une recommandation, je l'espère en tout cas, un consensus sur l'introduction de la lecture, mais bientôt il y aura la scolarisation obligatoire à 3 ans, enfin, et en maternelle, la maternelle obligatoire, et là c'est très intéressant d'essayer d'enrichir au maximum ce qui est fait, tout en sachant qu'on a une bonne maternelle en France, mais voilà, est-ce qu'on peut faire encore plus d'activités proto-mathématiques, encore plus de lecture d'histoire, est-ce que tous les enfants pourraient partir, par exemple, tous les vendredis soirs, avec un livre chez eux, qu'ils lisent eux-mêmes, ou que on leur lise, mais qu'on puisse de cette manière-là essayer de gommer ces inégalités.
Merci beaucoup en tout cas pour les commentaires de cette étude. Et puis Héloïse Rambert, on se retrouve demain pour une nouvelle Une de la Science.
À demain Mathieu.